Bonjour à toutes et bonjour à tous, il est midi 45 et c'est la grande table d'été. Aujourd'hui, nous allons parler chiffres. En cette année 2018, un rapport a été rendu par le Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes. Aucune femme ne dirige un théâtre national ou l'un des 7 centres nationaux de création musicale. 97% des groupes programmés par des grands festivals de musique sont composés exclusivement ou majoritairement d'hommes. 72% des avances sur recettes du Centre national du cinéma vont à des projets menés par des hommes. En 70 ans, le Festival de Cannes n'a décerné qu'une palme d'or à une femme. Depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, les chiffres parlent, ceux de la répartition des hommes et des femmes dans la culture et dans le spectacle vivant en particulier. Ils dessinent le visage du monde culturel et artistique, et ce visage est, exclusivement ou majoritairement, celui d'un homme. Les chiffres parlent, ils dessinent, mais ils n'évoluent pas. Nous en discutons avec Carole Thibault et Ren Pratt. En seconde partie, nous ferons le portrait de l'écrivaine Dominique Sigaud. Bonjour Ren Pratt.
Bonjour.
Vous avez été l'autrice pour le ministère de la Culture de 2 rapports pour l'égalité des femmes et des hommes dans les arts du spectacle. Et bonjour Carole Thibault.
Bonjour.
Vous êtes autrice, metteuse en scène, comédienne et vous dirigez depuis janvier 2016 le Théâtre des Ilets, Centre dramatique national de Montluçon. On vous écoute.
Il y a 2 ans, j'avais encore l'espoir que ça change. On en parlait ici, dans le cadre du Festival In, justement, de la non-représentation scandaleuse des femmes dans ce festival depuis sa création. Cette année, 2 ans après donc, la programmation du Festival In, hors jeune public, présente 9% d'autrices femmes pour 91% d'auteurs hommes. Cette année, 2 ans après, la programmation théâtre représente 89,4% d'artistes créateurs hommes, auteurs et metteurs en scène, pour 10,6% d'artistes créatrices femmes. Cette année, 2 ans après, sur la totalité des spectacles et expos programmés dans le Festival In, on recense 25,4% d'artistes créatrices femmes. Et encore, on peut remercier la SACD qui exige dans les sujets à vif la parité. Sans ces petites formes performatives de 30 minutes chaque, il ne faut rien exagérer non plus, on ne serait même pas à 20% d'artistes créatrices femmes programmées.
On est le 13 juillet 2018 cette année à Avignon et c'est votre voix, Carole Thibault. Vous avez pris la parole devant un public et vous énoncez des chiffres comme je le faisais en introduction. Vous rappelez la répartition, la très inégale répartition des hommes et des femmes dans la programmation du Festival d'Avignon. Pourquoi c'était une nécessité pour vous de prendre la parole à ce moment-là?
C'est tout un concours de circonstances. 2 ans avant, j'avais été invitée par Thomas Joly. C'est dans le cadre d'un feuilleton que commande le Festival In à un artiste. Il y a 2 ans, c'était Thomas Joly qui parlait de l'histoire du Festival d'Avignon des 70 ans. Il m'avait demandé de prendre la parole autour de la question du manque des autrices et des artistes femmes au Festival d'Avignon, ce que j'avais fait. Et là, David Bobet, à qui Olivier Py a reconfié le feuilleton cette année autour de la question du genre, m'a demandé de faire la même chose. Et il y avait la double circonstance que c'était un festival qui était axé autour de la thématique du genre, donc qui était pour moi une question tout à fait intéressante. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette question du genre permettait d'écraser aussi, d'une certaine manière, complètement la question du féminisme et la question politique de l'inégalité femmes-hommes, notamment dans le cadre de ce festival. Et puis l'autre chose qui m'a mise très en colère, c'est le fait qu'Olivier Py avait annoncé en conférence de presse, je crois que c'était en mars ou je ne sais plus exactement quand, qu'il était très fier et que puisqu'on aimait les chiffres, il allait en donner et qu'il était très fier qu'il revendiquait une presque parité dans le cadre du Festival d'Avignon puisqu'il atteignait 45,5% de conceptrices artistes dans le cadre du Festival d'Avignon. Voilà, et c'est ces deux choses en fait, la question du genre et la question de cette fausse parité annoncée qui m'ont vraiment mise en colère et le fait que 2 ans après, j'étais de nouveau conviée à faire mes 10 petites minutes au Jardin Sécano pour parler de la problématique, alors qu'en fait, on était encore en train d'écraser complètement la question, quoi.
C'est beaucoup un débat, oui, qui tourne autour de la question des chiffres et de la répartition avec beaucoup de pourcentages. Et les chiffres, vous, Ren Pratt, c'est quelque chose que vous avez beaucoup fréquenté, puisque vous aviez, je le rappelais en introduction, produit un rapport en 2006, donc il y a 12 ans maintenant, ce qui était un des premiers du genre sur la question de l'inégale répartition des hommes et des femmes dans la culture. Est-ce que vous pourriez revenir un peu à cette époque? Comment ça s'est passé?
Alors à cette époque, effectivement, une mission m'a été confiée par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, avec l'accord du ministre de l'époque, pour de travailler à comment sortir d'une situation où ce qu'expliquait ce directeur, c'est que quand il allait dans des réunions professionnelles de directeurs d'institutions, il n'y avait que des hommes autour de la table et qui trouvaient cette situation tout à fait anormale. Il m'avait d'ailleurs demandé aussi de travailler sur la question de pourquoi nos plateaux sont si blancs, deux questions qui évidemment sont différentes mais liées, et l'histoire sur laquelle je ne vais pas revenir a fait que je n'ai travaillé que sur le premier sujet. Oui, donc j'ai commencé par faire des comptes, par analyser les raisons pour lesquelles on était dans cette situation et faire un certain nombre de propositions pour en sortir. En 2018, donc 12 ans plus tard, enfin déjà 3 ans plus tard, j'ai sorti un deuxième rapport pour expliquer que malgré l'effarement de tout le milieu sur cette situation, rien n'avait changé. Et 12 ans plus tard, rien n'a non plus changé. Et la nouvelle feuille de route du ministère de la Culture s'appuie sur les préconisations que j'avais faites il y a 12 ans et les reprend. Et on change toujours pas. Donc je pense qu'il faut prendre les choses de manière très différente, qu'il faut commencer par ne plus compter, parce qu'on est dans une sorte de piège qui fait que le premier effet de toutes les politiques d'égalité, c'est d'entériner ce qu'elles sont censées dénoncer. Donc c'est dire, il y a des hommes et des femmes, le monde est organisé de manière binaire, et on s'appuie forcément là-dessus pour changer cette situation. Donc je crois qu'il faut faire un pas de côté.
Vous pensez qu'il ne faut plus penser de manière binaire entre les hommes et les femmes ?
Eh bien, je pense que la distinction entre ce qu'on appelle les hommes et les femmes, elle joue sur un seul point, c'est qu'il y a une petite moitié de l'humanité qui porte un pénis et des testicules, une moitié un peu plus importante qui porte un clitoris et un vagin, et d'autres qui portent ni l'un ni l'autre, ni les uns ni les autres, ou un peu des deux, et que cette distinction-là, elle ne sert que à une seule chose, la question de la reproduction. En dehors de ça, il n'y a pas de distinction à faire.
Il faut juger tout le monde à la compétence égale.
Donc il faut démonter les systèmes d'assignation qui font qu'on a décidé que les porteurs de pénis auraient telle et telle compétence, qualité, fonction, etc. Et que les porteuses de clitoris et de vagin en auraient d'autres. Mais ça, c'est totalement artificiel. C'est une convention.
Je reviens un peu à 2006. C'était un des premiers du genre, ce rapport. Et la spécificité, c'était que ça enquêtait sur les milieux culturels. Oui. Quelles étaient les spécificités des discriminations entre les femmes et les hommes du milieu culturel que vous aviez décelé à l'époque ?
Alors, je pense qu'il y a... Il n'y avait pas de spécificité dans ces discriminations. En revanche, c'est un secteur dont l'importance symbolique est très grande. Donc, les discriminations sont les mêmes que partout. Là où il y a de l'argent, il y a des hommes. Là où il y a du pouvoir, il y a des hommes. Enfin, le système de impuissant. ça fonctionne partout, les inégalités salariales, ça fonctionne partout, les répartitions genrées de fonctions, ça fonctionne partout. Simplement, ce milieu-là a une fonction particulière, c'est de donner des représentations et donc d'agir sur les représentations que nous nous faisons. Et aujourd'hui, les représentations que donne le spectacle, que ce soit d'ailleurs le spectacle vivant ou le spectacle enregistré, tend à creuser et affirmer ces différences. Je viens par exemple de voir deux films la semaine dernière, dont les héroïnes sont des femmes absolument formidables, qui sont une militante de l'écologie, qui tire à l'arc, fait sauter des câbles électriques, etc.
L'autre, c'était
quel film ? C'est une espionne, c'est Woman at War. L'autre, Mona Lina, je crois, quelque chose comme ça, c'est une espionne. Hein. Sauf que comme ce sont des femmes, évidemment, leur gros problème, c'est l'enfant.
C'est question-là. Une des spécificités du milieu culturel aussi, c'est que, Carole Thibault, vous l'énoncez dans votre discours d'Avignon, c'est que c'est un milieu qui se représente comme étant, par nature, ouvert, bienveillant, intelligent. Et c'est cette dichotomie-là aussi qui est extrêmement problématique pour vous.
Oui, mais c'est quelque chose qu'on retrouve partout dans la société. Alors, ce qui est intéressant quand on regarde le milieu culturel et artistique, c'est que c'est extrêmement concentré. C'est-à-dire que c'est vécu en interne comme un milieu très ouvert, très démocratique, très très en avance sur les questions de représentation humaine, sociétale, etc. Et qui, je pense, fonctionne malheureusement structurellement comme toute notre société qui se vit comme très démocratique, ouverte, très voilà, sur des règles extrêmement archaïques, patriarcales, mais qui sont, et c'est là où c'est très intéressant à regarder ça, je trouve, au-delà de la question politique, qui sont totalement inclus, ingérés, qui font complètement partie de notre, presque de notre subconscient collectif, quoi. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Et pour en revenir à ce que disait Rennes tout à l'heure sur la question du genre, moi je trouve que c'est un sujet absolument passionnant, la question de la non-binarité, parce qu'évidemment, on sait très bien que le genre est une construction qui nous détermine à partir d'un truc très arbitraire qui est le sexe physiologique avec lequel on est, et d'un seul coup, on nous détermine à un endroit ou à un autre de façon extrêmement binaire. Mais c'est justement ça qui m'a énormément intéressée à Avignon, parce que c'était ça qui était traité. C'est-à-dire, c'était, on ne veut plus être dans une forme de binarité, on veut être dans une société totalement sur un mélange des genres, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut se revendiquer en liberté homme, femme, yel, entre les deux, etc. Et qu'on revendique notre liberté de choisir. Mais malheureusement, je pense que la société n'est pas du tout encore à cet endroit-là, parce que toutes ces représentations inconscientes, subconscientes du collectif est encore absolument liée au sujet universel masculin, c'est-à-dire à l'homme, et que ce qui s'est passé au Festival d'Avignon, c'est que la question du genre a écrasé absolument la question simplement politique de la place des femmes, parce que qui a parlé du genre au Festival d'Avignon ? Ce sont les hommes. Encore une fois, qui se revendiquait dans un rapport de choix possible de son propre sujet, c'est avant tout des hommes. On le voit dans qui parlait de ça, qui travestissait, qui performait l'autre sexe, c'était des hommes. Et c'est toujours, à ce moment-là, il y a toujours quelque chose qui vient détourner la question principale et qui vient s'imposer au centre parce qu'il se vit encore. Mais c'est absolument pas une attaque contre les hommes, hein. C'est vraiment
une construction.
Le masculin se vit encore comme un sujet universel pensant au centre, et le reste est l'autre. Et donc, le genre est pensé comme ça encore aujourd'hui, malheureusement.
Mais c'est ce que vous pointiez dans un de vos rapports aussi, Irène Pratt, cette idée qu'on vit dans une vision du créateur qui est encore celle du 19e. Qui est encore celle de l'homme créateur, seul face au monde, qui serait un monde...
Qui a remplacé Dieu, oui.
Un démiurge.
On en est toujours là, bien sûr.
C'est étrange cette persistance de cette figure-là. Comment on pourrait l'expliquer ?
Mais alors ça s'explique très simplement par l'éducation, les représentations, les outils donnés aux uns et pas aux autres. Par exemple, quand je disais la seule distinction pertinente entre le masculin et le féminin, c'est celle de la reproduction, et encore, puisqu'on est quand même en train d'inventer, et peut-être aurait-on inventé bien plus tôt d'autres manières de se reproduire si on avait considéré que le sujet était intéressant. Au contraire, on considère qu'il faut bien continuer à écraser les deux. Mais ce qui compte, je crois, c'est la manière dont chacun a été programmé pour répondre à une assignation. Le fait que, globalement, les hommes sont plus grands que les femmes, ils sont plus forts, ils ont plus de muscles, c'est pas lié au fait qu'ils aient un pénis, c'est parce qu'ils ont été élevés. Les petits garçons, ils peuvent bouger, courir, tout va bien. Les petites filles, on leur demande d'être sages, et donc les muscles se développent moins. Mais dans toute société qui élève, et on a des exemples dans la Grèce ancienne et ailleurs, où les femmes peuvent développer les muscles comme les hommes. Donc c'est pas... Et c'est donc la pérennité de ce système, il vient d'une part du fait que, pour aller vite, ceux qui ont le pouvoir, ils vont pas le lâcher, et celles qui ne l'ont pas, elles ne vont pas le revendiquer. Pourquoi ? Parce que diviser pour mieux régner, ça marche toujours. Qu'on donne quand même des bonbons et des gratifications aux opprimés pour que leurs conditions d'opprimés leur conviennent. Et celles à qui ça ne convient pas, eh bien, on les admet dans le club à condition qu'elles passent à la masculinité. Et donc là, on peut leur reprocher évidemment d'être des femmes masculines et d'être ambitieuses et toutes les qualités des hommes sont reportées sur elles de manière négative. Voilà, donc le système, il continue tranquillement. Et tant qu'il n'y aura pas, enfin, moi je pense qu'il y a deux systèmes, soit les opprimés prennent les armes, quelles qu'elles soient, pour revendiquer le pouvoir qu'elles n'ont pas, ou au minimum le partage du pouvoir, soit il y a un élément extérieur qui peut être la puissance publique, qui, convaincue de la nécessité de ce changement, met en place des méthodes pour que ça change. Et c'est possible demain matin.
On va revenir après un peu plus tard sur la question du plan Nissen qui a été adopté là en 2018. Mais juste avant, pour rester un peu sur pourquoi on en est encore là, il y a aussi un des aspects importants dans le domaine culturel qui est celui de la formation. Il y a aussi parce que on se rend compte que dans les écoles d'art, toutes types d'art confondus, ce sont des femmes qui sont majoritairement sur les bancs de ces écoles-là, et qu'au final, dans les institutions, ce sont surtout des hommes qui se retrouvent aux commandes. Comment expliquer ce paradoxe ?
Non, mais c'est vrai dans tout enseignement.
Oui.
On sait que les femmes sont majoritaires dans les études supérieures, réussissent mieux, mais au moment de passer à la vie professionnelle, elles vont. Moi, c'est un exemple que je donne dans un des deux rapports. Sortie des études, un garçon va tout de suite se positionner pour prendre une direction, que ce soit d'un service ou d'autre chose, et une fille va se positionner pour continuer à apprendre et faire ses preuves.
Oui, mais là, c'est...
Et ça, c'est une question de construction, effectivement, de formation, comme vous dites. Mais c'est pas spécifique aux formations artistiques.
Ce qui est spécifique dans la formation artistique, c'est que les femmes sont majoritaires parmi les élèves.
Oui, mais de toute façon, je pense que, effectivement, je suis d'accord avec Rennes, je pense que les choses évoluent de la même manière partout. On le voit, les femmes sont les étudiantes les plus diplômées en France, et ce sont elles qu'on retrouve le moins, et vraiment beaucoup moins, au poste de direction, et au niveau des salaires, des écarts de salaire, c'est la même chose, etc. Après, ce qui est absolument terrible, je crois, par rapport à la formation au niveau culturel et artistique, c'est la question de l'héritage. C'est-à-dire qu'il est extrêmement compliqué de se positionner symboliquement dans un endroit de représentation du monde et de représentation de nos sociétés à partir du moment où cette représentation, qui est une forme de pouvoir extrêmement puissante aussi, hein, même si ça paraît un peu passé de se dire que l'art est une forme de pouvoir, mais c'en est un, parce que c'est une représentation symbolique. C'est pour ça qu'il y a cette place de l'artiste qui est très spécifique dans nos sociétés, dans toute société d'ailleurs. Mais le problème, c'est que ceux qui tiennent ce pouvoir, ce sont des hommes, et dans le sens des héritages qu'on nous constitue. Moi, je travaille depuis plusieurs années avec Aurore Evin, qui est une historienne, metteuse en scène, qui a fait un travail très important sur la question du matrimoine, c'est-à-dire de la recherche de l'héritage, notamment en théâtre, des autrices. Et on se rend compte qu'en fait, il y a énormément de femmes, de textes de femmes qui sont joués, qui rentrent au répertoire de la Comédie française au 18e, 19e, 20e, et qu'il y a plus de femmes qui sont rentrées au répertoire de la Comédie française au 19e qu'au 20e siècle. C'est quand même ahurissant. Et qu'il y a des autrices dans l'Ancien Régime qui ont eu des grands succès, qui ont été jouées, créées devant Louis XIV par l'équipe de Molière, la troupe de Molière, etc. Et que tous les 50 ans, c'est totalement effacé. C'est-à-dire qu'il y a un problème de prise de conscience d'un héritage des créatrices. On le voit vous parliez de la formation en école d'art, mais regardez dans les manuels scolaires ce qu'on dit sur le peu de femmes qui sont citées en tant qu'écrivaines. Je crois que Madame de Lafayette a été la première écrivaine à rentrer au programme du bac cette année. Enfin, c'est ahurissant. Et au niveau des grandes plasticiennes, elles ne sont pas vues comme peintres, elles sont vues comme muses. La plupart du temps dans les manuels d'école, dans les manuels d'école de l'art. Donc évidemment, il y a ce problème du modèle auquel une femme ne peut pas se référer, cet héritage qui lui est enlevé, qui existe. Attention, hein, les femmes n'ont pas créé avant, elles ont créé, simplement elles ont été effacées, parce que l'histoire est dessinée par le dominant de toute façon. Et donc c'est très compliqué pour une femme de tenir, de se dire, de continuer à se dire si j'ai quelque chose à dire et je suis légitime là-dedans, dans mon acte de création, dans ce que j'ai à transmettre aussi à l'intérieur de ça, puisqu'il n'y a aucun modèle de femme qui ont tenu, tel qu'elle les apprend en fait.
Le plus médiocre des mâles se croit en face des femmes un demi-dieu. Monsieur Claude Mauriac, dont chacun admire la puissante originalité, pouvait écrire à propos des femmes. Nous écoutons sur un ton d'indifférence polie la plus brillante d'entre elles, sachant bien que son esprit reflète de façon plus ou moins éclatante des idées qui viennent de nous. Ce ne sont évidemment pas les idées de Monsieur Mauriac en personne que son interlocutrice reflète, étant donné qu'on ne lui en connaît aucune. Qu'elle reflète des idées qui viennent des hommes, c'est possible. Parmi les mâles même, il en est plus d'un qui tient pour sienne des opinions qu'il n'a pas inventées. On peut se demander si M. Claude Mauriac n'aurait pas intérêt à s'entretenir avec un bon reflet de Descartes, de Marx, de Gide, plutôt qu'avec lui-même. Ce qui est remarquable, c'est que par l'équivoque du « nous », il s'identifie avec Saint Paul, Hegel, Lénine, Nietzsche, et du haut de leur grandeur, il considère avec dédain le troupeau des femmes qui osent lui parler sur un pied d'égalité.
Bon, j'ai vu, avec étonnement quand même, ce que ça m'a révélé, ça a été l'animosité de certains hommes que je croyais être tout à fait proche de moi, par exemple comme Camus, et qui a été absolument irrité par le livre en disant que j'avais, je m'étais moqué, enfin que j'avais caricaturé le mal français, etc., etc. Il y en a eu d'autres aussi qui ont manifesté une mauvaise humeur extraordinaire. Alors ça m'a beaucoup surprise parce que je croyais que cette espèce d'égalité des hommes et des femmes que j'avais dans mon milieu très très proche, avec Sartre, avec Merleau-Ponty, avec certains autres, je pensais que c'était une chose acquise. Oui. Alors, j'ai mieux compris à ce moment-là.
On écoute ici une lecture du deuxième sexe de Simone de Beauvoir et puis après sa voix dans une archive. Comment vous la recevez, cette parole?
Ah, ça fait un bien fou, parce que c'est tellement vrai, c'est tellement, c'est ce qu'elle dit sur Camus, et Dieu sait que j'aime Camus, quoi. Donc ça ne nous empêche pas d'aimer les hommes et d'aimer leurs œuvres, hein, loin de là. Mais c'est tellement vrai, c'est-à-dire qu'il y a des grands amis intellectuels, artistes, des gens avec qui on s'entend très bien, et il y a un endroit où on ne peut pas mettre la main, on ne peut pas enfoncer le coin à cet endroit-là, qui est l'endroit de la question des inégalités femmes-hommes. Et quand je dis inégalité, c'est pas que sur le plan des chiffres, c'est sur le plan symbolique profondément. C'est quelque chose qui pourtant est d'une richesse à étudier, parce que ça met à jour toutes nos questions de représentation et de construction culturelle. Donc pour un intellectuel, c'est passionnant à étudier. Je ne comprends pas comment les hommes ne s'emparent pas de ce champ, parce que c'est une ouverture intellectuelle et une ouverture de compréhension du monde dans lequel on agit et on est agi, même par la pensée, qui est passionnante. Et pourtant, à chaque fois qu'on aborde ce sujet avec des Albert Camus en puissance ou pas, on se retrouve effectivement, d'un seul coup, il y a quelque chose qui ne doit pas rentrer dans cette sphère de pensée du sujet masculin. Non, ça, c'est quelque chose qui est presque un peu dérangeant. C'est pas obscène, mais c'est bon, c'est gênant. C'est un peu comme si on parlait de nos règles ou qu'on étalait nos problèmes vaginaux devant tout le monde. Il y a un truc quand même qui est pas très politiquement correct sur le plan intellectuel, quoi. Et c'est assez drôle, je trouve.
Irène Pratt.
Ce que je trouve profondément dérangeant, c'est que une fois de plus, nous sommes là pour parler de ces questions-là. Et que je pense que Carole Thibault a bien d'autres sujets sur lesquels elle pourrait parler de manière pertinente. Mais il y a une façon de rabattre la parole des femmes sur des sujets qui concernent les femmes. C'est ce que disait Virginia Woolf. Une femme, il y aura des grandes écrivaines quand elles parleront d'autre chose que de leur propre histoire. Le problème, c'est qu'il y en a eu. Mais que la construction de l'histoire, que ce soit l'histoire littéraire ou l'histoire d'art, les a effacées. Moi, je voudrais revenir sur, puisqu'on parlait des grandes et du matrimoine, il se trouve que j'ai été chargée à une époque par le ministère de la Culture d'organiser une année George Sand à l'occasion de l'anniversaire de sa naissance. Où George Sand qui avait une correspondance avec Flaubert, et Flaubert l'appelait cher maître, et on voit comment George Sand a disparu de l'histoire littéraire. J'avais proposé cette année-là qu'on l'inscrive au programme de l'agrégation, ce qui n'est toujours pas fait. C'est quand même une de nos plus grands écrivains, mais l'histoire littéraire a considéré qu'elle était d'abord la maîtresse de Musset et de Chopin.
Et on a effacé ses plus grandes œuvres, Leila, Consuelo, pour garder les petites choses pour enfants. Pour ça aussi, au Festival Inge, je me suis énervée en disant, ouais, encore une fois, la place des artistes, c'est le jeune, ouais, public. Et ça n'est, ouais, pas d'évaluer le jeune public de dire ça. C'est que le jeune public est dévalué dans la pensée même, ouais, de ceux qui le programment. Et Georges Sand a écrit des œuvres, pardon, je t'interromps, mais parce que ça a été pour moi des chocs, Leila, c'est des immenses romans avec des femmes puissantes. Et ça a été totalement effacé, quoi. Ouais.
Et d'ailleurs, les trois romans pour enfants sont des romans pas du tout pour enfants, oui, mais qu'on a réussi quand même à vider de leur contenu, parce que quand même, la petite fadette, c'est l'histoire d'un amour incestueux entre deux frères jumeaux, bon, etc., etc. Voilà, je peux me faire le plaisir de citer une phrase de Georges Sand, parce que quand même, au XIXe siècle, elle écrivait à Flaubert, « Il n'y a qu'un sexe. Un homme et une femme, c'est si bien la même chose que l'on ne comprend en guère l'état de distinction et raisonnement subtil dont se sont nourries les sociétés sur ce chapitre-là. Elle ne savait pas qu'elle allait être effacée de l'histoire littéraire, ou en tout cas réduite à un rôle secondaire, second. »
Si on revient donc sur ces questions d'inégalité, même chiffrées, de la place des femmes dans la culture, et notamment dans le spectacle vivant, si on revient donc sur le rapport, sur les plans de Françoise Nyssen pour remédier à ce problème-là, vous, Reine Pratt, vous dites que, qu'est-ce que vous pensez par exemple de la politique du quota ?
Alors, je suis.
Est-ce qu'il faut mettre des quotas pour.
Je suis finalement favorable à l'application de quotas, mais de manière absolument radicale. C'est-à-dire que je crois aujourd'hui que toute nomination qui va intervenir, enfin que les prochaines nominations ne devraient être, enfin que les prochains postes de direction disponibles ne devraient être attribués qu'à des femmes. Voilà, tout simplement, jusqu'à ce qu'on arrive à un équilibre qui permettent d'oublier la question et de parler d'autre chose. Alors, comme certains de mes collègues me l'ont dit au ministère de la Culture, alors les hommes ne pourront plus poser leur candidature, mais pendant combien d'années les femmes n'ont pas posé leur candidature parce qu'elles en étaient interdites. Donc, si pendant quelques années, le temps qu'on arrive à ce rééquilibrage, les hommes ne posent pas leur candidature ou la posent mais ne sont pas retenus, parce que l'idée que les quotas soient appliqués uniquement au niveau des présélections, on sait ce que ça donne. Il y a des présélections, il y a trois femmes présélectionnées et un homme, mais c'est quand même l'homme qui va passer. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans un jugement sur des compétences. On est dans un jugement sur la question du symbolique. Et qui va incarner la personne, la direction d'une institution, c'est forcément un homme, puisque ça a toujours été des hommes. Et que quand ça a été des femmes, c'était l'exception, ça on veut bien les admettre, ça s'est souvent mal passé, parce qu'elles ont un caractère difficile, ou elles sont pas compétentes. Mais alors, les hommes pas compétents et qui mettent la terreur dans leur maison, ça, ils peuvent être reconduits ad vitam aeternam. Donc voilà, je crois qu'il faut appliquer des quotas de manière rigoureuse. Il faut imposer des quotas dans les lettres de mission et dans les cahiers des charges des établissements. Et les malus évoqués par la feuille de route, la dernière feuille de route, il faut qu'ils soient appliqués.
Et les malus, si jamais un quota femme
si,
n'est pas respecté.
Voilà, donc la feuille de route comporte l'idée d'appliquer des malus quand la parité n'est pas respectée. Que va-t-il se passer pour le Festival d'Avignon et le budget du Festival d'Avignon de l'année prochaine ?
Vous, Carole Thibault, vous seriez favorable à cette mesure-là ?
La mesure des malus ? Oui, à partir du moment où on est sur la question, je crois qu'il y a la question des nominations, puis il y a la question aussi de la répartition de l'argent public. Je pense que c'est extrêmement important, parce que le nerf de la guerre est celui-là. C'est le fric, malheureusement. Dans nos sociétés, c'est malheureusement celui-là. Et on se rend compte que là, même l'État n'est absolument pas vertueux par rapport à ça. Je crois que c'est 23% des financements d'État qui sont consacrés à des projets artistiques portés par des femmes, ce qui est extrêmement peu, quoi. On est en dessous même du quart. Et puis, je riais en entendant, Rennes, parce que j'imagine certains de mes collègues en train de faire des bons en écoutant cette émission.
Oui, ça me peut pas manquer de
réagir. Actuellement, il y a une chose qui court beaucoup chez les hommes blancs qui postulent à des directions, c'est de dire... Aujourd'hui, alors qu'on voit bien que les nominations sont toujours au moins... on n'est pas du tout à une exclusivité des femmes, mais plusieurs hommes blancs m'ont dit de toute façon, maintenant, si on n'est pas noir ou si on n'est pas femme, à l'heure actuelle, c'est extrêmement compliqué, on sait qu'on a peu de chance. Et je lui ai dit, mais c'est formidable parce que vous entrez enfin dans l'égalité avec nous. Quoi. C'est tellement ça pour nous aussi. Pour une fois, vous ressentez quelque chose qu'on ressent, on en est très heureuse. Quoi. Après, je pense qu'il y a la question des quotas. Je crois aussi, malheureusement, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup gênée. Et en même temps, je pense qu'il n'y a que ça avance. On l'a vu sur la question des gens racisés, on l'a vu sur la question des femmes depuis des siècles, enfin pas des siècles, mais des décennies. Ça ne marche que comme ça. Il faut imposer des choses, sinon il n'y a rien qui bouge.
Sinon, même au gouvernement, il y a des quotas au gouvernement, la parité respectée.
Mais oui, à tous les niveaux, sur les conseils d'administration de grandes entreprises. Alors, le problème, c'est qu'on vous dit dans le milieu artistique, oui, mais notre liberté de programmation.
C'est la liberté.
Et moi, ce que je réponds à ce moment-là, c'est, mais bon Dieu, à partir du moment où on est en train de regarder toujours le même champ, avec les mêmes représentations, sur les mêmes institutions, sur les mêmes scènes où les hommes sont largement majoritaires, comment voulez-vous parler de liberté puisque vous n'avez pas accès à la totalité de la création artistique, loin de là. Vous n'êtes pas en liberté, vous êtes en programmation, en représentation totalement déterminée par le champ du regard sur lequel vous êtes focalisé. Donc pour moi, c'est de la contre-liberté. Donc le quota... à un endroit, au contraire, ouvre la liberté, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Et puis après, je pense qu'il y a le problème de l'éducation, je suis désolée, mais on le voit dans les écoles de théâtre, on le voit dans le milieu scolaire, le nombre de textes de femmes qui sont étudiés, par exemple, c'est à pleurer. C'est à pleurer. Dans les concours, il n'y a aucun étudiant pratiquement qui passe des scènes issues de pièces écrites par des femmes. J'allais dire, c'est tout dès la maternelle, il y a quelque chose qui doit se reconstruire, mais c'est très compliqué parce qu'après il y a la sphère privée. Enfin, en même temps, c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on n'a pas fini de travailler, quoi. Il y a un champ d'action énorme.
Oui, je voudrais bien revenir rapidement sur deux points évoqués par Carole sur la liberté de programmation. Le ministère de la Culture n'a aucun problème pour imposer des quotas en matière de spectacles jeunes publics, en matière de textes contemporains. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui il y a des textes contemporains, alors qu'il y a quelques dizaines d'années il y en avait pas.
La deuxième chose.
Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, j'oublie. Voilà.
On vous réinvitera. Merci à toutes les deux, Carole Thibault et Reine Pratt. On peut annoncer les journées du matrimoine qui auront lieu à la rentrée en septembre et notamment au Centre Dramatique National de Montluçon que vous dirigez, Carole Thibault.
C'est un pont perdu sur l'Atlantique. C'est exotique, c'est exotique. C'est un grand secret sous les palmiers. C'est fantastique. Je pourrais te montrer. Pour y aller, c'est très facile. Ferme les yeux et laisse le centre mêler tes cils. Déjà, nous y voilà. Bienvenue sur la terre.
Mon compte, pas toi.
pas Berlin.
Il est 13h20 sur France Culture et on vient d'écouter La baie de Clara Luciani.
France Culture, la grande table d'été. Par Romain de Bec-de-Lièvre.
C'est l'histoire d'une vie traversée par les langues et rapportée dans un livre. Comment la langue circule, forme, déforme, enferme, sépare et parfois libère. Un livre qui s'ouvre sur des questions notamment. Il n'existe de langue que singulière, c'est une certitude. Comment faire néanmoins pour que chacune advienne? Est-ce qu'elles ne peuvent exister que par arrachement, écart, pas de côté? Est-ce leur principe même où il ne reste génération après génération que des langages, parfois presque impossibles à différencier? Dominique Sigaud, vous êtes écrivaine et l'auteur de ce livre. Il a pour titre « Dans nos langues » et il est publié aux éditions Verdier. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là.
Merci à vous.
Comment est apparu ce projet que je racontais, celui d'écrire une vie à partir des langues qui la constituent?
Je pense que c'est un projet qui circulait depuis des années, puisque par définition, ma matière est la langue. Et donc, je sais bien maintenant qu'il y a des choses qui se préparent très très longtemps à l'avance sans qu'on n'en sache rien pendant qu'on est en train d'écrire. Et simplement, un jour, j'avais un projet à déposer pour une résidence. Et c'est ce projet qui est venu, parce que ça me travaillait certainement de savoir qu'est-ce que c'est que la langue d'un individu. Je commençais à en avoir un peu assez de cette espèce de millimélo, de confusion des langues. Et est-ce que vraiment une langue, ça existe ? J'en parle dans le livre, j'ai beaucoup dirigé d'ateliers d'écriture avec beaucoup de plaisir dans des classes dites poubelles. Et c'était magnifique de voir que chaque enfant, en fait, avait sa langue. Chaque jeune avait sa langue. Et donc, je présume même que ça a commencé à travailler à ce moment-là, donc il y a plus de 20 ans. Et il a fallu très longtemps avant que j'arrive, moi, à trouver l'énonciation correcte, de poser les questions correctes, c'est-à-dire comment est-ce que je vais travailler ça, qu'est-ce que je suis en train de travailler, quelle forme est-ce que ça peut prendre. Et ça a pris énormément de temps aussi pour arriver à trouver la forme actuelle. Et c'est évidemment une question essentielle, y compris par rapport à ce qu'on a entendu à l'instant.
Vous dites que, je le disais en introduction, que chaque langue est singulière. C'est quelque chose que vous avez vraiment ressenti au cours
maintenant,
de ces...
Maintenant, je le sais, ouais.
Au cours de ces ateliers d'écriture,
notamment. Oui, absolument. Ouais, non, mais ça, c'est génial. C'est le principe même. C'est-à-dire, c'est le principe du vivant. Dans le vivant, vous n'avez pas un truc qui est comme l'autre. Les galets de Durance, j'habite à côté de la Durance, les galets de Durance, il n'y en a pas un qui est comme l'autre. Pourquoi, diable, est-ce que les langues devraient être les mêmes? Tous nos visages sont différents. Imaginons un instant que nous prenons des gens d'un même village, d'une même famille, etc., et on leur colle à peu près le même visage. Mais ce serait infernal. Ce qui nous fonde, c'est précisément notre singularité. Et ce qui est très touchant, c'est que sur un visage, on peut commencer à trouver, tiens, toi, t'as eu un grand-père qui venait de là-bas, toi, en fait, ta tante, etc., etc., les migrations, enfin, toutes ces choses-là. Et pourquoi pas dans les langues? C'est terrible. Et il est grand temps qu'on se saisisse de la question de cette manière. C'est-à-dire, oui, il est normal que nous ayons chacun notre langue, puisque nous venons chacun, nous-mêmes, de langues différentes, de par nos pères, de par nos mères, de par nos familles, de par les migrations, etc., etc. Et ce qui me trouble beaucoup, c'est que non seulement on n'apprend pas ça, c'est-à-dire on n'apprend pas à entendre des langues singulières, les seuls lieux dans lesquels on apprend à entendre des langues singulières, c'est la littérature, le théâtre parfois. Et la littérature est là pour ça, elle est là pour rappeler en permanence, enfin quand c'est de la littérature, hein, on s'entend bien, sinon c'est même pas la peine. Donc quand c'est de la littérature, elle est là pour rappeler en permanence que oui, il n'existe de langue que singulière et c'est pour ça qu'on lit des livres. C'est parce que quand on ouvre un livre, normalement, je répète, on a accès à une langue qui est singulière et qui dit singulièrement sa façon de regarder le monde et de le décrire. Et c'est infiniment touchant, c'est infiniment intéressant. Mais simplement, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout à ça qu'on est éduqué, c'est le contraire.
C'est un mot que vous utilisez tout le temps au pluriel dans ce livre, il y a les langues. Mmh. Et vous racontez une des premières scènes, c'est une scène où vous êtes avec votre mère et la langue de votre mère se met à vous devenir étrangère. Mmh. Et on voit aussi cet état mobile de la langue qui à chaque fois se passe d'un statut à un autre. C'était quelque chose qui vous a frappé, ça, ouais. Enfin, qui était au centre de l'écriture de ce livre.
Enfin, c'est même au centre de l'écriture de ma vie, je pense. Ça m'a énormément frappé quand j'étais enfant, familialement. C'est-à-dire qu'effectivement, tout d'un coup, la langue, vouf, il y a tout qui disparaissait, tout rentrait dans les placards et on sortait une espèce de langue purement sociale, purement représentative, mais qui n'énonçait plus rien, c'est-à-dire elle répétait des phrases qu'on connaissait déjà, qu'on avait déjà entendues, et puis on reprenait les mêmes, exactement les mêmes choses sur le gigot, sur les voitures, sur la voisine, sur enfin toutes ces choses-là. Et c'était très, très impressionnant comment tout d'un coup elle disparaissait.
La langue singulière. Langue singulière disparaissait.
Il y avait, c'était pas, les langues n'étaient pas franchement singulières dans la famille. C'était, mais bon, néanmoins, il pouvait arriver qu'un individu de la famille raconte quelque chose qui lui appartenait en propre, fasse un récit qui lui appartienne en propre. C'est déjà ça, en tout cas. Et puis, effectivement, voilà, ça disparaissait. Moi, j'attendais que ça revienne, quoi. Parce que quand ça disparaît, je trouve ça très difficile, très insupportable. Alors maintenant, je l'admets beaucoup mieux. Je sais bien qu'il y a de grands pans dans nos rapports pendant lesquels, bon, ben, ma foi, il va rien se passer, on va blablater. Bon, ben, c'est comme ça. Et puis, vraisemblablement, il en faut aussi. C'est-à-dire, il y a un certain nombre d'individus avec lesquels on va traiter d'une manière blablateuse. On connaît les phrases d'avance, celles qu'on dit, celles qu'on va répondre, celles qu'on va entendre. Et tant mieux, j'imagine que de temps en temps, il vaut mieux. Quoi.
Pour organiser la société.
Voilà, c'est ça.
Faites la distinction aussi entre ce qu'on pourrait appeler d'un côté du bavardage et un discours qui serait celui de la littérature. Est-ce qu'un des efforts de ce livre-là aussi, dans nos langues, c'était de trouver votre langue ? Ou en tout cas, de la travailler ?
Ah, de la travailler, ça, c'est... Tous les livres sont là pour ça. J'ai pas trouvé ma langue. Je suis toujours en train de chercher le même espace qui se modifie évidemment à chaque fois. Et c'est pour ça que je pense que c'est vrai de chaque individu. C'est-à-dire qu'avec les années, la langue, heureusement, se transforme, évolue, s'enrichit, se déplace. On peut en faire autre chose, on peut en faire d'autres choses. Elle peut être moins vierge, elle peut être moins coincée, elle peut être moins à vif, elle peut être plus ouverte, elle peut être plus riche. Et ce qui est magnifique dans ce travail de littérature, c'est que c'est d'un côté je travaille le texte, je travaille le livre, mais de l'autre côté la langue à l'intérieur de moi travaille sans que j'en sache grand-chose. Et je sais aussi que une part de mon travail, c'est de laisser exister cette langue qui est dedans, dont parfois je ne sais pas grand-chose, et de la laisser émerger et de la laisser se dire. Et moi, ce qui me touche infiniment, c'est que il me semble normal aujourd'hui qu'avec tout ce que j'entends, avec tout ce que je lis, avec tout ce que j'entends des autres, à la radio, dans les livres, etc., les gens qui me parlent, les amis, les ennemis et tout ça, forcément, ma matière langue s'est terriblement enrichie au fil des années. Mais je n'en sais rien, c'est normal de ne pas le savoir, je ne passe pas mon temps à regarder ma langue non plus.
Et puis c'est compliqué, on ne peut pas.
Oui, on ne peut pas.
On n'a jamais ce retour.
Enfin, si on se donne les moyens, voilà, si on se donne les moyens, bon, c'est possible, un petit peu. Et ce que je trouve extrêmement touchant, quand vraiment j'arrive à écrire, ce qui signifie être dans un état assez particulier de m'écarter de moi-même, c'est pour ça que j'aime tellement le livre de Clément Rosset sur le réel et son double. M'écarter de moi-même, de cette espèce de chose que je présente aux autres en disant « Bonjour, c'est moi ». Non, non, ça, tu le laisses de côté et tu te mets au travail. Tu prends une feuille, un crayon et vas-y. Tente d'énoncer ce que tu désires tenter d'énoncer. Et en fait, si vraiment j'arrive à me mettre au travail, il y a quelque chose qui va prendre le relais, qui est assez interne et qui va venir nommer d'une manière que parfois moi je ne sais pas. Et ce qui est très touchant, c'est que... c'est que des phrases viennent sous ma main dont je ne sais mais absolument rien, pas plus que vous.
Vous ne savez pas d'où elles viennent.
Et je ne sais même pas parfois ce qu'elles énoncent vraiment. C'est-à-dire, j'entends instinctivement que oui, c'est bien ça, mais il peut me falloir des jours et parfois des semaines pour vraiment comprendre ce qu'il y a dedans. Donc c'est une... Il faut que je dise un truc parce que c'est là en permanence depuis 10 minutes. C'est la dernière conversation que j'ai eue avec Mathieu Riboulet sur le travail, sur notre travail. Et on se disait ça, et on se disait que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est de plus en plus difficile. C'est-à-dire, plus on avance, plus c'est difficile. Parce que plus on avance, plus on a accès à une matière qui ne nous appartient pas, et pour cause, puisque c'est la langue, mais dont notre travail est de la faire, de la laisser émerger, de la laisser apparaître. Et nous devons, nous, notre responsabilité est de laisser venir ces choses, ces phrases, ces mots, ces distinctions, ces violences parfois, à l'intérieur de la langue, qui nous viennent et qui sont justes et qui viennent énoncer quelque chose et nommer quelque chose.
Vous citez Albert Camus, un moment qui dit « mal nommé, c'est ajouter du malheur au monde ». Ce serait de cet ordre-là ?
Exactement, c'est ça. Mais on est dans ça tout le temps. Et nous, on essaye, parce que vraisemblablement nous en avons souffert enfants, au moment où nous constituons nos langues, nous avons souffert d'entendre à quel point c'est mal nommé. Et que les enfants ont un instinct de la langue qui est absolument magnifique, qui est normal, moi je pense, qui est magnifique et assez miraculeux. Ils ont cet instinct-là et en fait, ils ne cessent d'entendre que c'est mal nommé. Donc il y a les enfants qui disent « bon ben je lâche l'affaire, tant pis, je préfère être m'entendre bien avec papa et maman et la maîtresse et etc. etc. » Donc je laisse tomber, ok, je sais, on nomme mal, mais moi je vais m'y mettre aussi, donc tout va aller bien pour moi. Et puis, il y a ceux qui, pour d'autres raisons, n'y parviennent pas et ne veulent pas, parce que ça leur fait trop violence et qui préfèrent tenter d'opposer quelque chose à cette violence et donc élaborer une langue qui vienne combattre ça. Je travaille actuellement la notion d'opposer un récit à l'autre. C'est politique, c'est très politique d'opposer un récit à l'autre. C'est ce dont vous parliez aussi tout à l'heure.
La table ronde, hein, juste avant.
C'est exactement la même chose.
Comment on oppose un récit à un autre ?
Il faut énoncer autrement la même chose. C'est-à-dire, prenons la question des femmes, prenons la question des migrants, qu'on appelle migrants, prenons la question de M. Benalla. M. Benalla débarque et puis il nous parle à tous devant la télévision. C'est fascinant. Derrière des images où on le montre taper sur des gens, il dit « Vous voyez là, je ne tape pas ». Moi, j'oppose un récit en disant « Monsieur, vous tapez ». Et ça, c'est très... Mais oui, mais c'est très, très important. C'est très, très important. Et ça, je trouve qu'on ne le fait pas assez, c'est-à-dire que on n'apprend pas assez à opposer un récit au récit menteur, mensonger, qui nous est déversé en permanence sur la figure, quoi.
Il y a toujours ce travail aussi entre l'intérieur et l'extérieur. Il y aura une langue qui viendrait de l'intérieur et tout le livre est traversé par cette chose-là. Et des langues qui, elles, viennent de l'extérieur, qui peuvent être soit la langue de l'école, la langue commune, la langue partagée. Ça peut être celle de la littérature et ça peut être aussi une langue qui est celle de l'arrogance, qui est celle du pouvoir aussi. Ouais. C'est quelque chose
domination.
Qui revient en fil rouge aussi de manière
très forcément,
forte.
Parce que je suis comme tout le monde, je suis confrontée à ces langues. Je veux dire, pour que la mienne puisse... finalement s'autoriser à s'élaborer, puis s'autoriser à exister, puis s'autoriser à exister dans un livre, il a bien fallu que j'écarte ces langues les unes après les autres, que j'en intègre certaines parce qu'elles m'étaient favorables, parce qu'elles étaient structurantes, comme la langue de l'école, qui à moi m'a fait beaucoup de bien, comme je le dis, elle m'a fait rentrer dans la nation, et je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé. Il y a beaucoup d'enfants, heureusement, à qui l'école, par la langue de l'institution, a fait rentrer dans la nation. C'est son but. Et elle est très très importante, parce que normalement, elle est égale. Elle est liberté, égalité, fraternité, cette langue-là, normalement. Bon, c'est en train de redécliner. Mais je suis arrivée à un âge d'or où c'était le cas.
On transmettait la même langue à tout le monde.
Alors, je ne suis pas certaine, mais je pense que globalement, oui. Je pense que globalement, oui. Dans les années 60, globalement, ça se passait comme ça. Il y a eu une fenêtre comme ça, assez magnifique, où on recevait la même langue, quelle que soit la classe sociale à laquelle on appartenait. Et c'est très important. Et c'est pour ça que je suis extrêmement favorable à ce que les écrivains aillent dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, etc. Parce que c'est ce travail-là qu'ils ont à faire aussi. Et donc, il y a ces langues qui sont structurantes, qui sera après, pour moi, le travail que j'aurai à faire en analyse, parce que l'analyse avec Lacan, avec Freud, c'est aussi une forme d'énonciation. Donc, je vais rentrer dans un espace, dans un champ symbolique, dans lequel on va m'autoriser à énoncer autrement les choses, opposer un récit à l'autre récit. C'est-à-dire mon père qui dit « tu es une pute, tu es une salope, tu ne vaux rien, tu n'es pas aimable », etc., etc. C'est un récit qui est fait de moi. Pourquoi vais-je en analyse ? Pour arriver à travailler un autre récit de moi. Et je veux dire, là aussi, la multitude est grande des gens qui doivent absolument, pour pouvoir vivre, qui doivent absolument pouvoir un jour opposer un autre récit à celui qui est fait d'eux. Et c'est également politique, puisque les jeunes gens que je rencontrais, parce que c'est moins le cas maintenant, dans les classes poubelles, on avait fait un récit d'eux socialement et politiquement, qui était... Tu vaux pas tripette, d'abord t'es noir, tu viens d'un pays arabe, t'es musulman, t'es dangereux, t'es ceci, t'es cela. C'était un récit d'eux qui avait été fait, alors qu'eux, ils n'y étaient pour rien. Donc il faut bien qu'à un moment, eux puissent bâtir un récit d'eux-mêmes. C'est très, très, très important. Et qu'est-ce qu'il y a comme espace dans la société où un jeune homme, une jeune fille, peut commencer à bâtir autrement un récit de lui-même ? C'est pas évident, il en existe guère.
Cette tricherie salutaire, cette esquive, ce leurre magnifique qui permet d'entendre la langue hors pouvoir dans la splendeur d'une révolution permanente du langage, je l'appelle pour ma part littérature. J'entends en effet par littérature non un corps ou une suite d'œuvres, ni même un secteur de commerce ou d'enseignement, mais le graphe complexe, des traces d'une pratique, la pratique d'écrire. Je vise donc en elle essentiellement le texte, c'est-à-dire le tissu des signifiants qui constituent l'œuvre, parce que le texte est l'affleurement même de la langue, et que c'est à l'intérieur de la langue que la langue doit être combattue, dévoyée, non par le message dont elle est l'instrument, mais par le jeu des mots dont elle est le théâtre. Les forces de liberté qui sont dans la littérature, bien entendu, ne dépendent pas de la personne civile, de l'engagement politique de l'écrivain, qui, après tout, n'est qu'un monsieur parmi d'autres, ni même du contenu doctrinal de son œuvre, mais du travail de déplacement qu'il exerce sur la langue.
On entend la voix de Roland Barthes, c'était un cours au Collège de France sur la littérature, extrêmement bien articulé. Mais finalement, quand il énonce que c'est un travail de la langue à l'intérieur de la langue, celui d'écrire de la littérature, on retrouve aussi cette idée que vous énoncez d'opposer un récit à l'autre. Est-ce qu'il dit aussi que la littérature est un espace justement de liberté ? Et dans votre livre, Dans nos langues, on entend aussi vraiment ça, chez vous, la découverte de la littérature, et notamment de Marguerite Duras, comme un espace de liberté, quelque chose qui ouvre.
Mais je pense que cet espace de liberté préexiste. C'est-à-dire que je pense que l'enfant en a l'intuition, l'instinct. Et après, ça se referme. Et ça peut se refermer très violemment. Et très puissamment. Et je me souviens que quand je découvre Marguerite Duras, je dois avoir 16 ou 17 ans, que je découvre pas Marguerite Duras, mais sa littérature, justement, quelque chose s'ouvre dans le champ de l'énonciation. C'est la première fois que je lis une femme qui plus est contemporaine, c'est-à-dire elle n'est pas morte, parce que quand même jusque-là, ils sont tous morts, ou presque. Donc celle-là n'est pas morte. Et j'entends dans le déplacement de la langue, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est pas l'habituel ronron où les mots sont à peu près toujours placés au même endroit dans la phrase. Et ça, il y a un moment, c'est insupportable. C'est pas possible que ça soit comme ça, puisque en fait, la vraie langue, d'instinct, on sait bien que c'est pas ça. Ça ne peut pas être toujours placé au même endroit, c'est pas possible. Sauf que le plus souvent, c'est comme ça. Et elle le déplace. Et c'est pareil, instinctivement, j'entends que ce déplacement, c'est ça qui fait la liberté. C'est-à-dire, je ne suis plus assignée à cette même place insupportable, éternelle, à laquelle on voudrait m'assigner. Elle me dit, tout ça, ça peut se déplacer. Et sa façon d'écrire, son énonciation, fait que cette femme adulte, où, là où moi je suis une jeune fille, me montre la voie. C'est-à-dire me dit, moi adulte, vivant, quand toi tu vis, mon travail c'est ça. Regarde, je pousse tout, je déplace tout, regarde, on peut le faire. On n'est pas obligé de rester dans les chicanes, on peut aller ailleurs. Et en fait, j'ai la chance de lire, à partir de là, entre 20 et 30 ans, je lis énormément, uniquement des auteurs de cette trempe, et tous me disent la même chose. Tous me disent, regarde, la chicane là, fiou, je la fais sauter, elle n'a plus lieu d'être. Et c'est somptueux.
Dans les autres expériences autour des langues que vous rapportez, il y a votre travail, le travail qui a été le vôtre pendant un certain nombre d'années, qui a été celui de journaliste. Comment vous différenciez, dans le livre Dans nos langues, journaliste, ce serait d'écrire, et écrivain, ce serait écrire. Est-ce que c'est une distinction qui opère encore?
Je pense que non. Enfin, si je pouvais arriver, il se trouve que je suis en train de reprendre du service comme journaliste. Si je pouvais arriver à devenir une journaliste qui écrit, ce serait génial. C'est le mieux auquel je puisse arriver. Le journalisme n'aura jamais l'extrême somptueux de la littérature. Je pense que c'est pas possible parce que dans la littérature, il y a la langue interne, alors que le journalisme est quand même, heureusement, obligé de se coltiner la réalité externe. Ouais, la langue du monde. Mais la langue du monde, les langues du monde, je le dis dans le livre à quel point ces langues m'ont élevé aussi, m'ont nourri, m'ont... C'est très beau d'aller rencontrer les langues, la langue au Liban, la langue au Rwanda. C'est magnifique d'aller entendre les gens partout, d'entendre leur récit du monde, ce que eux ils en ont à dire du monde. C'est très très beau et c'est ça qui très patiemment, très lentement a fini à moi par me donner de la langue. Et mon travail, très humblement, c'est quand même un travail, de mon point de vue, le faire relativement humblement, ce travail-là. C'est un travail de passeur. J'ai rencontré ces gens, j'ai entendu ce qu'ils avaient à dire, et moi, je vous le transmets à vous qui n'êtes pas avec moi, à vous qui n'êtes pas eux, à vous qui n'êtes pas dans leur pays, à vous qui n'êtes pas dans leur langue. Et je trouve que c'est un très joli travail que d'arriver, et je me souviens que plus les années passaient, plus j'avais à faire ce travail, comment je vais travailler la langue de sorte que l'individu français qui est en France entende ce que j'essaye de lui faire savoir de l'individu rwandais qui est au Rwanda ou de l'individu libanais qui est au Liban. Et là-dessus, le journalisme est un très très beau travail autour de la langue. Ça n'est pas du tout le même travail que celui de la littérature, mais c'est aussi un très très beau travail. Et c'est un travail très très qui travaille avec honneur la langue aussi. Mais il faut pour ça se mettre... Je disais tout à l'heure qu'il fallait du retrait pour être écrivain. Il y a du retrait, évidemment, pour être journaliste, mais je pense que c'est pas le même, c'est pas tout à fait le même.
Est-ce que vous avez eu la sensation, d'écrire aussi un texte sur la communication? Sur cette notion.
Qu'est-ce que vous pensez que cette notion... jamais. Je sais pas ce que c'est.
Vous pensez que les langues communiquent entre elles? Ou est-ce que c'est toujours des langues qui arrivent à se toiser?
J'espérais qu'elles communiquent entre elles. Enfin, c'est pour moi, on est une seule et même langue. Toutes nos langues sont singulières, sont à l'intérieur d'une seule et même langue. C'est ça qui est magnifique. J'ai découvert ça justement à la grâce quand j'ai entendu ce philosophe qui fait un travail remarquable sur Averroès. Et le fait qu'Averroès disait que l'esprit humain était un esprit humain, je pense exactement la même chose de la langue. C'est-à-dire, y a la langue humaine, et c'est magnifique, c'est somptueux, parce que forcément que moi je suis issue de la langue humaine qui me précède. Et c'est pour ça qu'on devrait bien davantage l'honorer, cette langue. Elle est magnifique. Elle est très très belle. Comment elle s'est transportée comme des flots là, pendant des siècles et des siècles. Et c'est juste, comment allons-nous faire pour laisser place à des langues diverses que nous avons chacun les uns et les autres. Et c'est tellement beau quand on entend quelqu'un qui dit sa langue à lui, sa façon à lui de dire. J'adore entendre les gens. Et c'est pour ça que j'adore aller à la Grâce pendant une semaine. Parce que je
me pose... Au Banquet du Livre, le festival.
Donc le Banquet du Livre, oui. Parce que je me pose dans une chaise longue et j'entends des gens. Je serais incapable de parler comme eux en français. Hein, je dis bien que c'est dans la même langue française. Je serais absolument incapable de parler comme eux. Or, nous avons à peu près le même âge, nous avons grandi à peu près dans le même pays, nous avons entendu souvent en commun des choses, et eux font un récit du monde dont moi je serais absolument incapable. Et c'est ça qui est magnifique. C'est comme votre radio, le Banquet du Livre de la Grâce, c'est comme France Culture. C'est-à-dire, j'ai 3 postes de radio dans la maison, le plus souvent ils sont allumés, et hop, je passe sur un truc sur les étoiles, auquel je ne sais absolument rien, par des gens qui ont leur langue à eux du monde. Et c'est ça qui est très très beau. Et c'est ça qu'il faut faciliter. Alors qu'on fait le contraire tout le temps. Non, 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 il faut absolument faciliter ça. Parce que plus vous facilitez ça, plus vous facilitez des individus qui se construisent. La langue, c'est un axe à l'intérieur de soi, pour chacun de soi. Et ça aide en plus à repousser les vilains, à repousser les prédateurs, à repousser pour une fille, c'est essentiel d'avoir une langue. Il n'y a qu'une langue qui va lui permettre de dire à l'autre, dis donc, attends, excuse-moi, mais non, là, vraiment, c'est pas possible. Dégage. Va-t'en, dégage. Une fille à qui on n'a pas autorisé à structurer sa langue, à qui on n'a pas autorisé à la bâtir, elle ne peut pas le dire. Elle est incapable de le dire. Comme je le dis dans le livre, une langue, c'est autant ce qu'on est incapable de dire que ce qu'on est capable de dire. Un individu, il sera... désigné autant parce qu'il ne sait pas dire, mais aussi parce qu'il ne s'autorisera jamais à dire dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, il y a heureusement des pères et des mères, parlons des pères aujourd'hui, il y a heureusement des pères qui ne s'autoriseront jamais à dire certaines cochonneries ou saloperies à leurs filles. Jamais. C'est comme ça. Leur langue est comme ça. Elle est clean là-dessus. Ils ne le diront pas. C'est leur langue. Et donc, c'est très important d'entendre que dans ce que je tais, soit volontairement, soit involontairement,
c'est aussi de la langue.
Se trouve aussi ma langue. C'est essentiel, ça. Mais là aussi, je trouve qu'on n'en parle pas assez, de l'inapparence, de la disparition, de l'absence. Et c'est tellement beau, parfois, un individu, par exemple, dans un rapport amoureux ou dans un rapport de parent à enfant, ce que vous taisez exprès, soit pour ne pas blesser l'autre, soit pour lui offrir, juste à ce moment-là, de vous taire. Et la capacité à taire, c'est un des lieux magnifiques de la langue.
Merci Dominique Sigaud.
Je vous en prie.
Dans nos langues est publié aux éditions Verdier et vous serez, on en parlait, au Banquet du Livre de la Grâce du 4 au 11 août, le festival, et il aura cette année pour thème « Dans la confusion des temps ». Merci à Lila Bozès, Anaïs Isbert, Oriane Delacroix, Anne Toscan-Viudès et Anna-Livia Marchaison qui pensent et préparent cette émission avec moi. Lise Combe était à la réalisation et Bruno Gagnère-Fontanille à la technique. Pour réécouter La Grande Table d'été, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast. Ce soir, à 18h15, dans Du Grain à Moudre, Mélanie Chalandon posera cette question avec ses invités. L'Europe doit-elle davantage défendre ses intérêts ?